Est-ce que vous connaissez les concordanciers aussi, outil tout à fait intéressant pour nous? Alors, je vais vous en montrer un petit peu un concordancier. En gros, ça ressemble à ça. Je vous donnerai une adresse tout à l'heure. Concordancier, c'est un outil qui était fait par des linguistes qui travaillaient sur des corpus. Et on rentre et on tire ici. Donc, on a 17 occurrences de consist dans ce corpus. Et on voit ici que, clairement, ça sera, contrairement à ce qu'en France a très envie de mettre in, on voit que ça sera off, à part dans quelques... dans un cas, on voit quand même qu'il y a une fois, une occurrence avec in. Bon, enfin bon, pas rentrer dans le détail ici. Donc, quand on peut faire travailler assez finement des étudiants, alors ici, on est sur quelque chose de très linguistique. Mais si on veut regarder une occurrence, est-ce qu'un anglais dirait ça dans tel type de texte? Ça peut être intéressant aussi. On rentre toujours dans ce concordancier et on voit donc le contexte dans lequel s'inscrit un mot ou une expression donnée. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous montre un exemple de... Alors, c'est le même, hein, celui-ci. Vous tapez le mot concordancier. Donc, la plupart du temps, ça se présente comme ça. C'est un peu... Ils n'ont pas travaillé énormément l'ergonomie. Hein. C'est un peu... C'est pas très vilain. Donnez-moi un autre mot en anglais qui peut poser problème. À brûle pour point. Un mot où on ne sait jamais trop ce qu'il va y avoir après ou dans quel cadre l'utiliser ou choses comme ça. Voilà. Alors, je vais essayer de ne pas faire de faute. J'ai pas mis mes lunettes. Interesting. Donc, c'est bon. Là, on choisit un de ces corpus. Donc, vous voyez qu'il y en a plusieurs. Brown, qui a un million de mots, hein, ce qui est énorme. D'accord. Et après, très simplement, donc, on appuie sur ce bouton jaune. Je pense que ça a marché. Oui. Et on va voir ici, effectivement, qu'on mettra Interested in. Vous voyez, ça apparaît ici. Donc, vous voyez comment ça fonctionne. Ici, un outil qui est fait par les linguistes, mais qui peut être détourné complètement pour travailler un certain nombre de micro-tâches. Alors, on a pris... deux exemples, encore une fois, avec des prépositions. On pourrait avoir travail sur les suffixes, sur la place, sur la syntaxe, des choses comme ça, en fait. Donc ça peut être assez fabuleux. Vous voyez, ce qui est bien, c'est que ça ne vient pas de l'enseignant. L'enseignant va juste, par exemple, souligner dans des productions en disant « Ah, là, il y a un problème. » Et après, si l'apprenant connaît l'outil, on peut très bien le renvoyer sur cet outil. Et c'est à lui de regarder dans quel cas on aura « interested in » et et puis, on voit d'autres façons, peut-être aussi, qu'est-ce qu'on pourrait avoir avant. Ça peut, par exemple, moi, si j'avais à faire quelque chose sur les articles. En anglais, toujours extrêmement compliqué, cette notion d'article, on met, qu'on ne met pas. Enfin, pour des francophones, c'est toujours un grand problème. Il me semble qu'en travaillant sur des corpus de cette façon, on pourrait aussi voir à quel moment il y a des articles, à quel moment il n'y en a pas, et ainsi de suite. Vous voyez, par exemple, je pense qu'au niveau de la grammaire, au niveau du lexique, on peut avoir un travail tout à fait intéressant là-dessus. Je sais qu'il en existe. Alors, malheureusement, étant angliciste, je n'ai pas regardé les concordanciers en espagnol, en italien ou en allemand. Mais il y en a aussi un qui existe forcément. Donc, voilà encore un outil qui est à notre disposition. Alors, on avance maintenant. On a parlé ce matin. Je vais aller très rapidement maintenant sur ces différences. Vous vous rappelez de notre petit tableau qui reprenait compétences linguistiques, compétences discursives, compétences illocutoires et compétences sociolinguistiques. Rapidement, ce qu'on nous dit sur la compétence discursive, pour aller un petit peu plus loin que ce que vous aviez dans le tableau ce matin, c'est les conventions qui permettent de relier des énoncés et de reconstruire un texte ou un discours. Étonnamment, souvent, mais je sais que vous avez vu ça avec Alain maintenant, donc on ne fera plus l'erreur. Texte, on pense toujours production écrite. Et on est bien d'accord ici que ce n'est pas un texte, ça peut être bien sûr à l'oral. En fait, ce que Pécarec et une collègue suisse nous dit, c'est un certain nombre de capacités procédurales qui sont en jeu dans l'utilisation du langage et qui intègrent à la fois des dimensions plus textuelles et d'autres plus interactionnelles. Donc elle, Pécarec, met ça aussi en lien, et je rejoins tout à fait Alain dans ce qu'il disait ce matin sur les compétences qui ne seraient pas figées, catégorisées et compartimentées, mais ici il y a bien un écho avec des compétences interactionnelles. Donc la conséquence de ce que nous dit Pécarec, c'est que s'engager dans des échanges communicatifs verbaux, prendre position face à l'autre, participer à la construction et à la régulation du discours, tout cela relève également de la compétence discursive. Hein, ce n'est pas juste mettre des connecteurs au bon endroit. Hein, c'est pas juste construire des paragraphes. C'est savoir ça, mais savoir aussi comment le discours va être reçu par l'autre personne et comment on va le réguler pour qu'il soit reçu de la meilleure façon. Ça va pour cette compétence discursive que je voulais juste un petit peu approfondir avec vous. Vous donner un exemple ici, je l'ai pris en espagnol, vous voyez que je suis capable de me décentrer, tout angliciste que je suis. On l'a, je vous l'ai traduit quand même à côté. Et c'est vraiment un stéréotype qu'on a au Mexique sur les Français. Ah bon ? Eh bien merci, de rien. Et voyez comment Julien, qui est francophone ici, muchas gracias, mais qui le dit hein, avec ironie, et ainsi de suite. Et comment des tours de parole vont se construire, vont se répondre, et on n'est pas seulement, encore une fois, dans la compétence linguistique, mais on est bien en train de prendre son tour dans un tour de parole, de prendre sa place, de jouer avec la langue, et de faire celui le pauvre français quand même qui trouve que les Mexicains exagèrent un petit peu sur ses stéréotypes, sur le parfum, et ainsi de suite, en fait. Hein. Juste ici, je crois que c'est important pour nous enseignants, et je crois que c'est important aussi dans la formation, vu que certains d'entre vous êtes déjà formateurs de réfléchir aussi à ces tours de parole, à ce qui se passe aussi, peut-être au niveau de l'évaluation. Quand on va évaluer une production langagière par visioconférence, peut-être que c'est aussi, en revenant sur les tours de parole, sur la transcription, pour revenir dessus, pour voir comment ça s'est construit, comment ça pourrait être mieux construit, hein, au niveau de la compétence discursive. Compétence illocutoire, je vais aller assez rapidement dessus. Je crois qu'on avait compris, à vous rappeler, c'est cet exemple de « il fait froid ici ». Concerne la connaissance et savoir-faire qui permettent à des apprenants de L2 d'utiliser les énoncés appropriés ou les actes de parole dans des contextes particuliers, de gérer une conversation ou toute autre situation discursive. En gros, et c'est quelque chose qu'on oublie trop en classe de langue, c'est cette dimension pragmatique de la langue. Je veux influencer les actions de quelqu'un, je veux influencer les comportements, les attitudes, les croyances, les valeurs. Je veux persuader, en gros, je veux séduire, je veux, vous voyez, souvent on est trop souvent dans l'argumentation en fait en classe de langue et je pense qu'il y a plein d'autres genres qui sont possibles effectivement. Je veux faire rire quelqu'un, ben, c'est quelque chose qui est difficile à mettre en place. Je veux séduire quelqu'un, je veux, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, il y a beaucoup d'autres genres qui sont possibles aussi. Et enfin, la compétence interculturelle, on en a parlé un petit peu ce matin. Je suis désolé, là c'est extrêmement chargé. On va juste regarder le tout premier ici, recouvre des connaissances et des savoir-faire relatives à la prise en compte des normes sociales et culturelles spécifiques à la L2. Je suis francophone, et de manière évidente, si je vais en Angleterre, en Écosse, aux États-Unis, à New York, dans le Midwest, en Australie, on parlait tout à l'heure, je ne vais pas avoir le même comportement. Il va y avoir des valeurs qui sont différentes, et bien que ce soit de l'anglais, cet anglais-là ne sera pas le même anglais et qui ne sera pas reçu de la même façon parce qu'il y aura des normes face à moi de ces qui sont véhiculées par cette culture et par cette langue. Ça suppose capacité pour moi de les interpréter, de les relier entre eux et de mettre au jour mes propres représentations. Je crois que c'est important ici. C'est pour ça que c'est un petit peu plus... Quand le cadre européen insiste beaucoup sur cette notion de compétence interculturelle, c'est pas juste... une sorte de vue de l'esprit hein, qu'il faudrait mettre en place comme ça, un projet généreux, vous voyez ce que je veux dire. Il me semble que là, il y a vraiment, quand on dit langue culture purée, on emploie tout le temps langue culture, c'est relié, c'est de manière évidente. Je pense que nous, enseignants, on a à apporter, et c'est pas juste ce que nous, on a subi à l'université, c'est-à-dire des cours de civilisation, hein, l'Angleterre au 19e siècle, les grands événements, les grandes fêtes, on l'a tous fait, moi je l'ai fait aussi, hein. j'ai fait Halloween, j'ai fait ce genre de choses-là. C'est peut-être autre chose aussi, la culture langagière aussi de quelqu'un, c'est comment cette personne parle, les différences sociolinguistiques qu'il peut y avoir entre un noir de Philadelphie, quelqu'un de la riche société de Boston, un juif de New York, et ainsi de suite. Vous voyez, bon, là, je prends des stéréotypes, mais pour que vous compreniez rapidement dans le temps qui m'est imparti. Je vous donne un exemple ici d'un projet que je mène depuis 4 ans. Excusez-moi, là, c'est encore autre chose. Un exemple de texte, on parlait de blog tout à l'heure, texte qu'on pourrait très bien utiliser, c'est sur l'Argentine. Un blog de voyage, quelqu'un qui s'appelle Jérémy, alors c'est, Et puis, ce Jérémy là a fait un bloc de voyage tout à fait intéressant et qui pourrait tout à fait être utilisé dans le cadre d'un cours. Pour, alors, il disait, oui, les Argentins, vous voyez, par rapport à mes références culturelles françaises, sont extrêmement agressifs ou intrusifs dans leurs relations non amicales. Vous êtes dans un magasin en train d'acheter une paire de chaussures, un vendeur est en train de vous conseiller, quand bam, sans s'excuser, sans dire bonjour, un autre client interpelle abruptement le vendeur pour lui poser une question. La réponse donnée, ce dernier repart sans même se donner la peine de remercier. Un Français qui est choqué, ça arrive, par le manque de politesse des Argentins. Intéressant. Et ce qui est intéressant, surtout dans les blogs, c'est toutes les possibilités qu'on peut avoir derrière de commenter. Alors, je vous invite, on n'a pas le temps, là, dans le temps imparti, de regarder, mais on voit ici comment les gens vont se positionner de leur culture, si c'est des Argentins ou des Français. Et il y a tout un travail tout à fait passionnant. Alors, ici, ça se trouve que c'est en français, mais on pourrait trouver la même chose en espagnol, en anglais, en italien, et peut-être même avec beaucoup de chance en allemand. Et on pourrait travailler sur ces différentes choses qui vous amènent à réfléchir de manière très fine sur comment des Allemands se positionnent par rapport à leur propre culture ou comment des Français voient la culture de l'autre. En fait, vous voyez comment ça peut être intéressant et comment on peut travailler cette compétence interculturelle. Vous avez des questions, des réactions par rapport à ça ? Non ? Alors, on avance. Je vous ai parlé de TIC ce matin en disant qu'on allait surtout parler des outils de CMO, des outils de communication médiatisée par ordinateur. On va maintenant faire la liste. Alors, ça, c'est une. Je la sors pas de mon chapeau. Là, c'est tout un travail que j'ai fait justement. Ça, donc, on voit. Alors, j'insiste bien pour dire que c'est le potentiel ici. Hein, c'est le fruit de lectures diverses et variées. Après, l'horizon n'est peut-être pas aussi rose que cela pourrait apparaître à travers cette liste. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses à dire, des réactions par rapport à cette liste de potentiel, enfin de potentialité, pardon. Avançons. À quoi ça ressemble? On a déjà expliqué tout à l'heure. Alors là, maintenant, on n'est plus. On regarde, donc communication médiatisée par ordinateur. J'essaie de classer un petit peu. Je reprends ceci à Chen d'ailleurs, hein, Dorothy Chen, qui s'est beaucoup intéressée à la CMO. On retrouve les notions de temporalité en asynchronie ou en synchronie. De manière intéressante, je crois qu'il faut regarder les différentes modalités, donc textuel ou audiovisuel. Et puis, Chen fait la distinction entre première génération et seconde génération. On serait avec seconde génération, ce qu'on appelle de manière un peu facile, le web 2.0. Enfin, première génération, courrier électronique, le forum, pour en asynchronie textuelle. Courrier électronique sonore, voicemail, on en parlait ce matin, ou le forum sonore, je vous en parlerai dans un instant. Forum sonore, vous voyez à quoi ça ressemblerait? Un forum, vous voyez tous à quoi ça ressemble. Vous êtes tous le forum de Libération, celui du Monde, ou peut-être qu'il y a des gens qui lisent le Figaro aussi, pourquoi pas, et je pense même au Figaro, il doit y avoir un forum. Et ici, la possibilité d'avoir des fils de discussion hein, qui nous emmènent et qui permettent de discuter un certain nombre de choses. On peut avoir aussi le forum sonore, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit du texte, ça peut très bien être des choses qui sont enregistrées. Hein. En synchronie, n'hésitez pas encore une fois à réagir. Et là, il y a des expériences pédagogiques qui ont été faites, hein, qui sont tout à fait concluantes. Messagerie instantanée, donc maintenant du côté synchronie. Messagerie instantanée, donc MSN, hein, salon de clavardage. Et puis, en synchronie, la visioconférence classe à classe. Vous avez, certains d'entre vous ont déjà utilisé ça? La visio classe à classe. Vous l'avez fait? Dans quel cadre? C'est intéressant, effectivement. Il y a d'autres choses, d'autres configurations qui ont été utilisées pour classe à classe, non? Deuxième génération, les blogs, les wikis, réseaux de sociaux de partage de clips sonores vidéo, hein, type YouTube, c'est tout à fait possible maintenant de s'enregistrer. On avait l'expérience d'un collègue, l'Andréa Sandelan, qui a fait enregistrer des chansons et qui ont été mises après sur YouTube, avec l'accord, bien sûr, les élèves eux-mêmes, les étudiants eux-mêmes, qui mettaient. Parce que l'idée, c'est pas de ridiculiser nos pauvres apprenants, en fait, en balançant des chansons sur YouTube. Visioconférence poste à poste, Skype, MSN, ce que j'ai beaucoup utilisé ces dernières années. Et puis, plus récent, les mondes virtuels, genre Second Life. Certains ont déjà utilisé ce genre de choses-là. Bon, je ne suis pas sûr qu'il faille se précipiter dessus, en fait, mais il y a des choses qui existent hein, là-dessus. En fait, hein. Alors, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est de regarder. On a dit qu'il y avait de la synchronie et de la synchronie. C'est pas facile, c'est le terme du mode asynchrone et du mode synchrone. D'accord ? Et ici, en fait, les psychologues qui sont penchés sur les types d'apprentissage que cela favorisait ont dit attention, ne faisons pas tout ce qui peut se faire en synchrone, ne se fait pas forcément en asynchrone pédagogique. Et bien réfléchir au potentiel d'un mode et de l'autre, parce qu'ils ne sont pas, encore une fois, on ne fait pas la même chose. On va avancer, parce que comme je voudrais quand même arriver à vous faire concevoir quelque chose sur cette partie de brainstorming, en gros, je voulais que vous réfléchissiez, enfin, que vous me disiez les tâches que vous avez mises en place en utilisant des outils de CMO, mais on va passer pour vous faire concevoir tout à l'heure. Alors, vous faire réfléchir maintenant, enfin, vous montrer un certain type d'outils et de projets qui me paraissent spécialement intéressants. Juste comme ça, pour échanger par rapport à ça, le wiki, le forum, le blog et la visioconférence. Ça va être les quatre outils sur lesquels je vais revenir. Le wiki, parce que je crois d'ailleurs vous êtes assez peu à l'avoir utilisé jusqu'à maintenant. Donc donner une définition, forum, blog, et ainsi de suite. Ne notez pas, là, c'est juste... voilà. Le wiki, donc, pour vous donner une définition, c'est un système informatique qui permet à plusieurs personnes d'écrire ensemble, donc de collaborer à un même texte. Et ça fonctionne avec un éditeur de texte qui est assez simple. Qui a déjà utilisé un wiki ? Ouais. D'accord. Qu'est-ce que...
C'est ce qu'on appelle le document en partage.
Pardon ?
C'est quand on appelle le document en partage.
Oui, Google Docs, par exemple, je pense qu'on ne serait pas loin d'un...
Oui,
c'est tout à fait ça.
Je sais pas si ça peut...
Ouais. Alors, c'est le système... Enfin, bon, en gros, hein, mais l'idée, c'est à peu près un outil d'écriture collaborative, oui, ça rentrerait là-dedans. Alors après, c'est pas totalement un wiki, mais c'est bien la même fonctionnalité. Pardon ? C'est très très bien, ouais, très très bien. C'est gratuit, on peut installer ça, et ça permet de faire réfléchir, par exemple, un groupe de 3 apprenants. Ils ont besoin de faire, je sais pas, de préparer une visite d'anglais ou un règlement, par exemple. Ça peut être intéressant, faire un règlement de comportement pour... ils vont recevoir des anglais, par exemple, dans le collège, choses à faire et choses à pas faire avec les anglais. D'accord ? Donc, se réfléchir au point de vue interculturel, choses à faire, au point de vue culturel, si on le fait visiter Lyon, Grenoble ou que sais-je. Et puis, voilà, on peut très bien avoir quelque chose qui est fait à plusieurs sur ce type de choses. L'expérimentation qui est mise en place par Olivier, collègue qui est maintenant à La Réunion. Donc l'article, je crois, est paru, il est en ligne, hein, Olivier 2007 Wiki, vous le trouverez. Il fait faire à ses étudiants, à bon niveau, c'est en Autriche, une notice de Wikipédia. Vous connaissez Wikipédia, il leur fait décrire leur village autrichien pour de vrai. Et je crois que c'est pour de vrai qui est intéressant. C'est-à-dire que là, il rajoute un enjeu authentique dans la démarche pédagogique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste d'écrire un texte collaboratif, puis c'est le professeur finalement qui va l'évaluer à la fin. Mais là, il y a une publication. Et en plus, c'est Wikipédia qui a des règles de publication extrêmement dures. C'est-à-dire qu'on ne publie pas n'importe quoi sur Wikipédia. Et donc, tout un travail avec des prises de photos et ainsi de suite. Et puis, de correction linguistique. Gros travail. Correction sur les données qu'on met en ligne, ainsi de suite. Et surtout, encore une fois, ce qui donne sa valeur à son projet, c'est la finalité de publication pour de vrai. Ça, c'est vraiment, moi, j'ai trouvé ce projet tout à fait abouti, en fait. Donc, ce que je trouve intéressant, enfin, c'est pas juste un wiki pour utiliser un wiki, mais un wiki qui sera utilisé pour Wikipédia à la fin. Oui, oui. J'ai entendu dire que la BBC faisait la même chose maintenant aussi. Hein, sur le site de la BBC, ça existe également. Ouais. La BBC. BBC Learning, ça s'appelle comme ça. Et maintenant, il y a possibilité, effectivement, d'écrire pour de vrai pour la BBC. Allez voir, parce que c'est BBC Learning. Ouais, ouais. Quand l'enjeu de communication devient authentique, on n'écrit pas juste pour son enseignant, même si on l'aime bien, mais qu'on écrit pour une communauté plus large, ça devient quand même très intéressant. C'est bon pour le wiki. Il y a, je pense que c'est un bel outil. Alors, il ne s'agit pas d'en abuser non plus, mais à certains moments, pour travailler sur l'écriture, ça peut être intéressant. Et puis là, on a parlé, alors maintenant, on est quasiment sur des macro-tâches, mais on peut très bien imaginer aussi des micro-tâches. On va travailler sur la code linguistique, encore une fois, la correction linguistique d'une production écrite. Ça peut, le wiki peut être aussi une façon de travailler à plusieurs et de réviser un texte, ainsi de suite. Le forum, alors, on est dans de l'asynchrone, d'accord, à distance, et, bon, vous connaissez, je ne reviens pas trop sur la définition, je vous montrerai, à mon avis, le projet le plus abouti, le plus intéressant, qui a été mis en place par une collègue du MIT aux États-Unis. Alors, vous tapez Cultura, hein, vous allez le trouver, et vous allez voir, alors, je vous donnais l'exemple ce matin, d'ailleurs, différentes choses qu'on peut trouver. Alors, je vous explique comment ça fonctionne. Ici, on travaille sur l'interculturel. Bonjour, on voit que la sexualité n'est pas abordée de la même façon, la paternité n'est pas abordée de la même façon, beaucoup de choses comme ça sont différentes parce qu'il y a une migration culturelle. Ici un exemple qui me paraît sur l'individualisme, c'est pas ce que je préfère, la gifle, je vais parler ce matin juste pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors ici c'est même pas une copie d'écran. On voit comment, d'un côté, les Français réagissent et comment les Américains réagissent. En fait, une mère dans un supermarché gifle son enfant. A mother in a supermarket slaps a child. Et on voit qu'ici, d'un côté, elle l'éduque avec amour, c'est son droit. C'est les Français qui réagissent comme ça. Et de l'autre côté, on voit que c'est quelque chose qui dérange énormément les Anglais, en fait. C'est-à-dire qu'ils prennent, ils se mettent à la place de l'enfant. En fait, on voit bien ici différentes façons de se positionner par rapport à l'éducation. C'est intéressant. Et là, ce qui est intéressant, c'est aussi de faire réfléchir, de croiser. Ça devient aussi un corpus. C'est-à-dire que vous avez été surpris par ce qu'on dit les Français sur la gifle. Et vous voyez comment on peut petit à petit affiner les différences interculturelles et puis travailler quand même sur de la langue. Parce que là, on travaille en compréhension. On est bien d'accord qu'il n'y a pas de production dans sa langue 2. Mais en tout cas, on travaille finement sur de la production, sur de la compréhension de la langue cible. Intéressant à ce projet. Moi, je trouve qu'il est... Alors, on n'a pas le temps de creuser plus que ça. Un projet extrêmement intéressant. Le blog, on parlait de Loïc a rappelé la possibilité de publier un certain document. Le blog, ce qui est quand même intéressant aussi, c'est qu'on peut publier des textes, on peut publier des documents sonores, on peut mettre de la vidéo, que ce soit de la vidéo de soi-même maintenant, c'est tout à fait possible. Donc là, c'est un outil de publication très facile à mettre en place. Qui l'a utilisé déjà? Vous l'avez utilisé dans différents projets? De quelle manière vous l'avez utilisé? Je montre juste quelque chose que j'avais fait avec des étudiants de deuxième année à l'université. Oui, tout à l'heure, on disait comment on accompagne un projet. Ben, c'est clair que j'avais aussi, vous avez amené on avait monté le premier blog ensemble, on a montré un petit peu, j'ai fait une petite fiche, ainsi de suite. J'aurais donné aussi une fiche d'évaluation pour dire tout de suite comment ils seraient évalués à la fin. Et ils avaient un certain nombre de travaux à rendre, à publier au fur et à mesure que je récupérais, ainsi de suite. Donc bon, il y a des projets plus ou moins intéressants. Ici, je n'ai pas pris forcément le plus intéressant. Enfin bon, les étudiantes de psychologie qui s'intéressaient à l'obésité, vu qu'on a vu donc du côté anglophone, du côté anglais. Et donc, l'idée, c'était de leur demander une introduction et puis après, un document écrit, un texte, un article. Et là, je voulais travailler justement différents genres. Je leur disais, mais vous pouvez aller sur des forums. Vous pouvez aller sur des articles, vous pouvez aller voir des émissions de télévision, des émissions de télé-réalité, en fait, tout ce qui leur paraissait intéressant, en fait, de travailler. Et par rapport à ça, non seulement elles comprenaient, enfin, elles faisaient un travail de compréhension, mais elles devaient sortir un certain nombre de mots-clés, de faire un travail de synthèse et de positionnement. Toujours dire, ben voilà ce que j'en pense hein, par rapport à ce sujet-là, voilà comment moi, française, je le reçois, et ainsi de suite, quoi, en fait. Hein. Et à la fin, pour finir pour l'évaluation, pour montrer que le projet s'inscrivait dans une macro-tâche, à la fin, il y avait une interaction avec quelqu'un d'autre, d'un autre groupe qui n'avait pas travaillé sur le même sujet, devait présenter leur travail et poser des questions à l'autre. Comme ça supposait de réellement s'être approprié le lexique les données liées au problème et tout ça. Parce que le problème du blog, c'est souvent aussi de faire des copier-coller ou de mettre des choses de Wikipédia et ainsi de suite. Là, ça peut être un vrai danger. Mais quand à la fin, on demande non pas de recracher ce qu'on a appris, mais d'être en interaction avec quelqu'un et d'avoir une vraie discussion, et l'enseignant est dans un rôle d'examinateur, finalement, il va juste noter et voir si ça a été, si c'est intéressant et tout ça. Là, ça me paraît intéressant. Ouais. De moins en moins, parce que vous voyez, Off the Blog, je l'avais pris parce qu'il était sans pub. Et puis au bout d'un moment, ils viennent avec pub, en fait. Donc, écoutez, moi, je vais vous dire, la pub, elle nous a tellement envahis. Je comprends les positionnements critiques, puis il y a un moment où. Uncle Ben's, bon, il y a. Mais c'est sûr. C'est sûr qu'il y a d'autres choses qui seraient embêtantes. Non, alors la pub, effectivement, il y a des blogs qui existent. WordPress, c'est sans pub. C'est sans pub, hein, WordPress. Je dis pas de sottises. Donc, il y en a un WordPress maintenant qui existe. Non, mais moi, je vois ce que vous voulez dire. Alors, cela dit, il faut accepter qu'une production d'élèves ne soit pas formellement correcte. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des... Bon, très bien, je pense que ce n'est pas un problème. Et puis, en même temps, par contre, là, il faut que l'enseignant exerce un certain contrôle quand même sur le... Moi, je sais que je regardais les textes qui étaient publiés. Et après, le travail que je donnais un petit peu de feedback. Je faisais un copier-coller de leur texte. Je reprenais, oui, bien sûr. Hein, c'est-à-dire, ça peut être, ça dépend de l'âge de vos élèves, de leur niveau d'autonomie, du contrat pédagogique. Oui, ou alors si c'est imposé, ainsi de suite. Moi, par exemple, j'avais repris, ils publiaient, je recevais directement sur ma boîte mail, chaque fois qu'il y avait un poste, un billet qui était mis, je regardais la qualité de l'anglais, je leur faisais corriger un certain nombre de choses, et du coup, il n'y avait pas de dérive ou de choses comme ça. Parce que je comprends ce que vous dites. Je pense qu'effectivement, ce n'est pas le travail d'un assistant. C'est le travail d'un enseignant pour Oui, non, bien sûr, non, puis... c'est sûr. D'autres réactions. C'est pas mal le blog, mais bon, ça problème de la pub, effectivement, n'est pas innocent. Et contrainte, ouais. Alors, on continue maintenant sur le projet télécollaboratif. En gros, on en a parlé. Alors, vous donniez un exemple tout à l'heure, j'arrive plus à pas lire votre prénom, qui nous donnait un exemple de Dijon, c'est ça, hein, qui donnait un exemple de projet classe à classe et tout ça. L'idée, c'est de mettre en relation une classe avec une autre classe de deux langues et cultures différentes, hein, avec différents outils. Alors là, maintenant, c'est plus juste un outil. Alors nous, on a beaucoup travaillé sur la visioconférence ces temps-ci. On va parler de blogs, les forums, hein, toutes ces choses-là peuvent très bien fonctionner pour mener à bien une tâche dans un contexte pédagogique. Alors je vais montrer un projet dans lequel je suis impliqué jusqu'au cou, le français en première ligne. Donc là, c'est du français langue étrangère. Hein, on le fait depuis un certain nombre de temps. D'un côté, nous avons des tuteurs, des apprentis tuteurs, des futurs enseignants qui apprennent leur travail d'enseignant. Donc, ils doivent faire des tâches, hein, suivant des thèmes qui ont été déterminés par notre collègue de l'Université de Berkeley à San Francisco. D'accord ? Et donc, par rapport à ça, on a un certain nombre de dates, de choses comme ça. On a 7 interactions entre nos apprentis tuteurs à Lyon qui, chaque semaine, vont administrer une séquence pédagogique de 45 à 50 minutes à des apprenants américains de deuxième année, d'accord, à l'université de Berkeley. Donc on voit ici qu'il y a un certain nombre de tâches et d'objectifs qui sont donnés. Et alors je vais vous montrer par exemple, on va prendre quelque chose qui est très à la mode maintenant, l'identité nationale et l'immigration par exemple. Voilà, et on voit comment ici, par rapport à une tâche qui est mise en place, j'espère que ça va démarrer parce que comment on construit des compétences discursives, illocutoires et comment il y a des tours de parole qui s'échangent avec... j'espère que ça va fonctionner. Il y a toujours, quand c'est de la vidéo, c'est toujours un petit peu plus... Alors, j'ai vu que vous aviez participé à des projets. Qui a déjà mis en place des projets télécollaboratifs ou participé à des projets télécollaboratifs? 3, 4... D'accord, ok. Lourd à porter? Intéressant? Lourd? Je crois que c'est la première chose qu'il faut dire, faut pas se mentir. C'est extrêmement lourd, en revanche, c'est extrêmement motivant, en fait. Il y a quelque chose qui se passe avec ça m'agace que ça ne marche pas. Bon, c'est en open, vous pouvez y aller. Hein. Vous tapez le français en première ligne sur... vous aurez tous les articles, tout le projet. Il existe en asynchrone, c'est François Mangenot à Grenoble qui le fait en asynchrone. Nous, on le fait en synchrone avec Christine Develotte, d'accord. Et il y a plein d'idées de tâches des séquences et des extraits de séquences en fait. Hein. Donc allez-y, parce qu'on ne peut pas perdre trop de temps là, en attendant que ça se mette en place. Le e-twinning, je vous montre juste la page, mais comme on a une spécialiste. Ça fait. Et là, à Lyon, c'est Robert Girard qui s'en occupe, qui est au CRDP. Il est extrêmement actif, hein, si vous êtes de l'académie. Là, c'est vraiment passionnant. Il y a plein de choses, à mon avis. Et encore le potentiel Girard, G-I-R-E-R-D, Robert. Donc il y a vraiment des tas de choses à faire dans ce domaine. Bien, on arrive, donc vous voyez que j'ai un petit peu pressé, mais je voulais quand même qu'on arrive à la conception, évaluation de tâches médiatisées. Il me semble que dans une formation, même si on a fait ça un petit peu au galop aujourd'hui, je voulais qu'on aboutisse, hein, sur un temps de travail entre vous. Alors ce qu'on fera, on va peut-être limiter la mise en commun, parce que c'est souvent ce qui prend le plus de temps, mais je voudrais que vous, c'est moi qui vais me faufiler entre les groupes, vous laisser travailler, et puis peut-être à la fin, essayer de faire ce travail comme ce que vous avez fait avec Alain, peut-être de présenter un petit peu une tâche médiatisée. Donc on se rappelle à l'unité didactique. Alors c'est à vous de choisir les modalités, est-ce que c'est sur 3 semaines, sur 1 mois, sur un trimestre, ainsi de suite. Faisons-nous plaisir, hein, on peut choisir la langue, le niveau des apprenants, c'est des 6e, des 3e et tout ça. On travaille un petit peu dans l'abstrait, mais c'est pas ça qui nous intéresse ici. Ça sera de déterminer des objectifs, de trouver des documents, on le fera pas à cette partie-là, ce serait beaucoup trop long. Trouver quels outils utiliser. Alors ce que je voudrais, c'est que vous décriviez une macro-tâche, d'accord, avec une production finale. Quelle production finale? Idéalement, des tâches intermédiaires. Vous vous rappelez de mon petit schéma tout à l'heure? En gros, j'aimerais que ça ressemble un petit peu à ce genre de choses-là. Et puis, quand vous utilisez un outil, dire pourquoi vous l'utilisez, comment il intervient, qu'est-ce qu'il ajoute en plus. Je suis vraiment attaché à cette notion de valeur ajoutée d'un outil qu'on emploie à tel moment parce qu'il apporte quelque chose. OK? On va faire... essayer de voir les difficultés que pourraient rencontrer les apprenants. Et puis surtout, j'aimerais qu'on essaye de définir les critères d'évaluation. Je voudrais qu'on finisse la journée sur comment est-ce qu'on évalue ces productions langagières, la production finale et puis les productions intermédiaires. Encore une fois, pas évaluation sommative, hein, mais c'est bien quels outils, qu'est-ce qu'on va mettre en place quand on utilise un blog pour que. Qu'est-ce qu'on met en place comme évaluation formative quand on utilise un forum à vous de réfléchir à ce genre de choses-là, à l'intégrer dans votre réflexion. En fait, hein. Comme on n'a pas beaucoup de temps, on ne fait pas. Donc, trouver des documents. Non, mais c'est le même. Mais comme j'ai supprimé juste, vous voyez, j'ai grisé deux parties. On détermine les objectifs, d'accord. On détermine le format de tâche. Et les outils. Pourquoi j'ai enlevé ça? C'est quand même très important. Voilà, je le remets. Juste l'étape, trouver les documents qu'on fera pas, c'est trop long, en fait. Hein. C'est trop long.